on en jase.
Je préviens, on jase.
Êtes-vous comme moi? Êtes-vous un tripeur de baseball? Je vous ai parlé des Capitals tout à l'heure qui ont énormément de succès encore une fois cette année. Je vous le rappelle, 20 août, le match Boulevard 102-1 au Capital de Québec. Max Larouche qui va faire le lancer protocolaire. Mais là, notre équipe du Canada, les Jays de Toronto, sont complètement en feu. Troisième victoire consécutive face aux Red Sox de Boston. Ça s'est passé hier, un gain de 6-4. Les Jays, quand je suis allé les voir, il y a de cela quelques semaines, dans mon voyage, ça fait deux semaines, dans mon voyage à Toronto, on disait « ils ne feront pas les séries, les Jays, cette année, malgré que l'an passé, ils ont passé à deux retraites gagner la Série mondiale ». Eh bien là, sont de retour au plus fort de la course aux séries, avec une séquence de 7 victoires à leurs 9 derniers matchs. Ils sont à 1,5 match des éliminatoires, donc ils sont à 2 victoires de faire les éliminatoires. Bon! Ils ont encore 4 équipes à dépasser, mais au rythme où ils vont...
Tu y crois-tu?
Dépassent. Ils ont une des meilleures défensives du circuit. Ils ont vraiment des lanceurs solides. La relève est solide. Ils ont des bons lanceurs partants, notamment Dylan Cease. L'attaque est vraiment au ralenti depuis le début de la saison. Fait que, est-ce que j'y crois? Non, parce que notre meilleur joueur, Vladimir Guerrero Jr., malheureusement, est dans une mauvaise saison. Mais est-ce que en tant que partisan, ça m'excite puis je vais les encourager jusqu'à la fin? Oui.
Mais d'avoir une équipe qui gagne au moins puis qui rivalise match après match, ça fait une différence.
Vraiment.
Le Canadien, qu'on a commencé à jouer comme du bon sang, mm-hmm. puis qu'on était capable de rivaliser chaque soir, ben ça devenait de plus, beaucoup plus intéressant, même si on faisait pas des séries pour autant.
Ben oui. Alors, les joueurs, les gens qui ne travaillent pas à des heures défavorables, donc c'est-à-dire vous finissez vers 14h, ben c'est le fun pour vous. Cet après-midi, 15h07, vous allez pouvoir écouter le match des Jays. Parce que c'est cet après-midi contre les Red Sox de Boston. Le quatrième match d'une série qui était très importante. Et les Jays ont remporté, justement, les deux premiers matchs.
Faire un tour rapide à la circulation parce que c'est très difficile là, dans certains secteurs, notamment 20 direction ouest. Je sais que c'est tout le temps difficile, mais en ce moment, ça l'est particulièrement pour 13h29 entre Monseigneur Bourget et Taniatas au rouge. Guillaume Couture en direction ouest, hauteur chemin du fleuve, ralentissement aussi. Sur la rive nord, vous mentionnez Capitale direction est entre Pierre-Bertrand et Neuviade. C'est au rouge, Laurentienne direction sud pour accéder à Capitale, un peu d'attente. Dans le secteur de Le Bourgneuf aussi, là, vis-à-vis Pierre-Bertrand, il y a quand même pas mal de trafic en raison de travaux dans le secteur. Et je termine en vous mentionnant Carré 4, direction sud, à hauteur de Charest. Un peu d'attente aussi, quoi que ce soit d'autre. 418-971-1021, c'est par texto.
Avant de parler à Luc Laliberté, je vous invite samedi le 29 août au Port de Québec parce que c'est la grande fête du Port de Québec. C'est un événement qui, à chaque année, met à l'honneur le monde maritime et portuaire dans une ambiance familiale, festive et rassembleuse. C'est l'occasion de rencontrer plusieurs opérateurs maritimes passionnés qui seront sur place pour faire découvrir leur métier, vous partager leur quotidien. Puis ça, là, les petits-enfants vont être impressionnés, puis les ados vont en apprendre plein d'informations. Alors, c'est une sortie qui est entièrement gratuite. C'est un super rendez-vous familial. C'est le 29 août au Quai Saint-André devant l'Oasis du Port de Québec. On va couper un petit peu de Tea Party pour aller rencontrer Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine et producteur des capsules La Liberté en clair. Luc, comment vas-tu, mon ami?
Je vais particulièrement bien. J'espère qu'il en va de même pour vous deux et bien sûr pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui.
En tout cas, si je parle pour moi, Luc, ça va très, 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 très bien. Hey, Luc, il y aura un problème de suicide au niveau de l'armée américaine, au niveau de la marine. Peux-tu nous en parler plus?
Oui, écoute, la nouvelle circule de plus en plus. Là, hier, déjà, on avait des infos à ce sujet. Ce matin, le sujet a gagné en importance. Et en fait, ce sont des familles de marins qui sont à bord du USS Abraham Lincoln. C'est un porte-avions, c'est un navire qui est très important, qui est déployé dans le cadre des opérations en Iran. Et les familles disent, écoutez, la vie à bord des porte-avions, surtout depuis le changement d'administration, surtout sous la direction de Pete Hegseth, c'est devenu problématique. On a des problèmes de rationnement, des problèmes d'eau potable, des bris à bord. Et ce qu'il faut noter avant de poursuivre, c'est qu'on est déployé de plus en plus longtemps à bord de ces porte-avions sans accoster et sans retourner à la maison. Les marins dont on parle, dont les familles déplorent l'état de santé mentale, Ce sont des gens qui approchent des records des gens déployés en mer. Donc, on a franchi ou on a passé le cap des 250 jours sans accoster.
Hey, c'est énorme!
On rapportait ce matin un incident, donc contact physique entre des marins, et semble-t-il qu'il s'agissait d'éviter le suicide de l'un d'eux, et d'autres auraient menacé de le faire. Donc, on est déployé très longtemps, beaucoup plus longtemps que ce qui était conseillé et que ce qu'on préconisait avant. On est confronté à des problèmes de recrutement, donc au sein des troupes, ce qui explique qu'on les déploie plus longtemps qu'avant parce qu'on manque de personnel souvent pour assurer la relève, ce n'est pas à la hauteur. Et là, on en est au point où, en plus des différentes problématiques, on parle d'un problème criant de santé mentale. Donc, des gens qui sont coupés, dans certains cas, de l'essentiel, mais de leurs proches ou d'une vie normale sur une plus longue période. Et tu devines ou vous devinez qu'il y a des retombées majeures à ça. Tout d'abord, sur la scène internationale, ça se produit alors qu'on a l'impression que le conflit iranien est un véritable bourbier. Mm-hmm. Ça se produit où l'administration est critiquée même par ses alliés, que ce soit à mots couverts ou des critiques directes. Et tout ça se passe en plus alors qu'on vote au mois de novembre et que dans les sondages aux États-Unis, un des points choquants ou un irritant majeur pour les électeurs, au-delà de l'économie, de l'inflation, du coût de la vie, c'est le conflit iranien et ses retombées sur l'économie américaine. Donc, un très gros dossier, puis en termes de synchronisme, un dossier qui vient entacher l'image des États-Unis sur la scène internationale, puis provoquer une méchante gestion pour l'administration Trump et pour le secrétaire à la Défense ou à la guerre, Pete Hegseth.
On manque beaucoup de transparence du côté de l'administration Trump dans le conflit en Iran. Donc, malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'aura jamais les vraies données ou statistiques. Luc, c'est moi qui en a trop contre Donald Trump et son administration?
Il y a un manque de transparence et il y a autre chose vers lequel je vais pointer. Et on le fait en tout respect, bien sûr, de la hiérarchie puis du service de ces hommes et femmes dans les forces armées. Mais j'ai l'impression que les généraux refusent de confronter ouvertement Donald Trump, alors qu'il y a de très nombreuses problématiques. On a eu la pointe de l'iceberg la semaine dernière quand le général Dan Kane, qui est à la tête des chefs d'état-major, les principaux conseillers militaires du président aux États-Unis, quand lui-même est revenu sur les mises en garde qu'on avait servies au président et sur la nécessité de revoir la stratégie pour sortir d'Iran, j'ai l'impression qu'on a eu vraiment que c'est la partie visible d'un mouvement qui est beaucoup plus profond. Et on ne les entend pas, les généraux, et c'est un peu normal. C'est la chaîne de commandement et le président américain est le commandant en chef. Mais il me semble que dans plusieurs dossiers, non seulement c'est opaque, non seulement on n'a pas accès à l'information, mais qu'on écarte finalement les mises en garde ou les conseils des généraux, ceux qui normalement, en termes d'opérations militaires, sont les premiers concernés.
Donc, ça fait en sorte qu'à l'heure actuelle, on est dans ce bourbier-là. Là, on se chicane encore avec l'Iran, savoir qui détient, est-ce que le détroit d'Hormuz est réouvert ou non. Mais là, je ne pense pas qu'il soit réouvert à l'heure actuelle, parce que sinon, on en ferait une grande victoire du côté des Américains.
Oui, puis le président donne l'impression de jouer, en tout cas, du moins dans ce qui circule, dans ce qui se rend jusqu'à nous. Il donne l'impression de donner du temps encore à la diplomatie. Mais il semble avoir cédé ou abandonné, en tout cas, certains sujets. Parce que ce dont il est question dans les derniers jours, on suit ça depuis des mois, il y a une partie des explications, des justifications américaines pour ce conflit dont on n'entend plus jamais parler. L'accent semble être résolument placé sur le détroit d'Hormuz et ce sont d'autres joueurs que les États-Unis qu'on entend qui ont des responsabilités ou qui effectuent des interventions. On a déjà parlé ensemble du sultanat d'Oman, hein, qui est tout près, ce fameux canal qu'on voudrait ouvrir avec l'Iran, mais on a besoin des États-Unis pour le faire. On a parlé de l'Arabie saoudite, mais vous remarquerez tout le monde qu'on n'entend plus parler du nucléaire. Mm-hmm. Et le nucléaire, c'était la grande raison qui permettait d'espérer que finalement les Américains soient derrière nous, si on parle de l'administration Trump. Et de ça, on ne parle même plus. Et ça demeure préoccupant. Quand on dit est-ce qu'on est dur avec l'administration Trump, on n'a pas eu le détail sur pourquoi on est entré dans la guerre. On continue de penser que c'est surtout grâce à l'intervention d'Israël, c'est-à-dire qu'on a répondu favorablement à la demande de Netanyahou, mais qu'ensuite on ait pu affaiblir l'Iran et qu'on sorte d'Iran une menace potentielle qui était l'enrichissement de l'uranium, je pense que à peu près n'importe qui dans les démocraties occidentales pouvait être en faveur de ça. On l'a déjà dit, je n'ai aucune sympathie pour le régime iranien, puis ce qui peut l'affaiblir et freiner les menaces, je ne peux qu'appuyer. Mais là, on a l'impression que l'angle le plus sérieux auquel on s'attaquait, qui était le nucléaire, nous n'en discutons même plus. Ça semble très limité au détroit et effectivement à court terme, ne retenez pas votre souffle, si on trouve des façons différentes d'acheminer du pétrole, des vivres, des denrées, il reste qu'on a quand même bloqué une voie de navigation qui est particulièrement importante.
Clairement. Luc, du côté de l'administration Trump également, on a eu la perte hier de la porte-parole de la Maison-Blanche, Caroline Leavitt. Moi, je vois ça comme une grosse perte pour l'administration Trump parce que, avec son jeune âge, avec sa prestance, elle était capable d'aller chercher ce jeune Américain-là indécis vers les Républicains. Fais-tu la même analyse que moi?
C'est assurément une grosse perte parce que je ne sais pas si les gens se souviennent, ça passe tellement vite et il y a tellement d'infos. Dans le premier mandat de Donald Trump, on a eu plusieurs porte-paroles qui se sont succédées. Mm-hmm. Et on a fini par avoir une qui était stable, qui est Sarah Huckabee Sanders, donc la fille de l'ancien gouverneur de l'Arkansas. Donc, on a eu Mme Huckabee Sanders qui a un peu fait le même travail, mais je dirais entre guillemets, puis je fais attention au terme, mais avec moins de charme, dans le sens, effectivement, là où Caroline Leavitt, quand même, a une image qui peut être présentée favorablement, Sarah Huckabee Sanders, c'était vraiment « je vais mettre au pas les journalistes ». Donc, Trump avait trouvé, ou l'administration Trump avait trouvé une porte-parole qui, dans les pires tempêtes, n'a jamais fléchi, n'a jamais cédé et a accepté de défendre un grand nombre d'informations fausses, voire carrément de mensonges. Et ce qui fait jaser aux États-Unis, il y a deux angles. Bien sûr, on perd quelqu'un si on voit ça de l'administration, dont on ne doute pas, mais absolument pas de la loyauté, quelqu'un qu'on peut envoyer au front, même avec les dossiers Epstein, et qui va faire le travail aux yeux de l'administration. Ce qui a fait beaucoup jaser, c'est le synchronisme. C'est qu'on sait maintenant que le président Trump, au retour donc d'Ankara sur un vol, a été appelé à changer d'avion. Il est passé du nouveau Air Force One offert par le Qatar à l'ancien Air Force One. Il y a des gens, des membres de son personnel qui l'ont suivi. Mais pas Caroline Leavitt, qui est restée à bord de l'avion pour lequel on s'inquiétait d'une attaque iranienne.
C'est intéressant. Et là, les gens disent,
ben, est-ce que Caroline Leavitt aurait décidé finalement, avec en passant une explication qui se justifie quand on la connaît, mais est-ce qu'elle n'aurait pas décidé qu'elle débarquait pas juste de l'avion, mais du train de l'administration Trump en raison de cet abandon finalement du président? Parce que le motif officiel, le seul qu'on ait entendu sur Truth Social par le président et de la part de Caroline Leavitt elle-même, et ça se tient, elle en est à un deuxième enfant, Caroline Leavitt. Ses valeurs familiales sont connues, elle a déjà pris un congé et son motif maintenant pour quitter, c'est « je veux passer plus de temps avec ma famille, mais en même temps, je reste comme conseillère du président, une conseillère spéciale ». Mais retenez le synchronisme, c'est de ça beaucoup dont on a discuté aux États-Unis. Est-ce qu'elle quitte parce que le président l'aurait, entre guillemets, largué au moment du changement d'avion?
Ça peut faire partie, évidemment, de la réponse. Si je suis une jeune mère de famille, ça ne me tente pas d'être sacrifié par Donald Trump dans un avion qui va être attaqué. Je suis convaincu de cela. Luc, la liberté, toujours un bonheur de te parler. On se reparle bientôt.
Plaisir partagé. Une bonne journée à tout le monde, aux auditeurs, auditrices en premier.
Salut Luc. Luc Laliberté, chroniqueur en politique américaine, producteur des capsules La Liberté en clair sur les médias sociaux. Allez voir ça, c'est des capsules de 5-6 minutes. C'est des résumés parfaits de ce qui se passe au niveau de la politique américaine. Mathias, t'en penses quoi de Caroline Leavitt?
Ben en même temps, Jeff, si t'étais dans la garde rapprochée de Donald Trump, que tu te mettais sur l'espace public à dire, tu sais, à répéter des mensonges que le président dit, puis un peu détruire ta crédibilité par le fait même,
ah oui.
Puis que ce même président-là, après ça, t'envoie sur l'avion qui aurait pu être attaqué par des Iraniens. Ça te tenterait-tu de continuer à prendre des balles pour lui?
Moi, je suis dans cet avion-là. T'sais, mon gestionnaire me met dans une situation où ma vie est en danger. Ciao, bye, le gestionnaire.
C'est fini.
Non, c'est fini. Là. Voyons, ma vie vaut bien plus qu'un poste, peu importe le poste dans une organisation, qu'il soit là, justement haut placé ou non.
Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est puis je doute que non, là, je tiens à le dire, là, mais est-ce qu'on va avoir une porte-parole de la Maison-Blanche qui va un peu reprendre un rôle plus neutre et moins partisan? Ça m'étonnerait beaucoup, là, parce que ce rôle-là se veut pas autant partisan que ça, initialement. Là. La Maison-Blanche a vraiment appris une tournure très, très partisane envers Donald Trump, puis Caroline Leavitt, c'en était une qui l'était. Mais du côté de Trump, on va probablement juste vouloir... retrouver quelqu'un qui dit ce qu'on veut qu'elle dise puis que ça finisse.
Exactement, mais Caroline Leavitt, ce qu'elle avait de particulier, c'est qu'avec sa prestance et sa jeunesse, elle était capable, on dirait, de dédramatiser les choses juste par sa présence.
Puis d'aller rejoindre, tu l'as bien dit, d'aller rejoindre un électeur que des républicains ciblent.
Bien, il y a énormément d'indécis à l'heure actuelle aux États-Unis. C'est comme ici au Québec, hein, on parle d'un un électeur sur deux qui est encore indécis, puis on se lance en campagne électorale. Mais c'est la même chose pour les Américains à l'heure actuelle. Puis c'est de la faute à Donald Trump et son mouvement MAGA. Mais c'est aussi, là, la moitié de la faute revient aux démocrates qui, là, élisent des socialistes pour aller à la présenter à la mi-mandat. Donc là, les électeurs ont le choix entre deux extrêmes. Alors, il y a énormément d'indécis dans le milieu. Ça va être une course très intéressante également, ces élections de mi-mandat. Courte pause, on termine l'émission en actualité. Hey, je vais entre autres te parler de Zachary Bolduc qui a pris la décision. J'avais, moi, des vidéos avec Lewis Le Fou. Ciao, bye. Ça n'existe plus. Jusqu'à